la French Connection, épisode 63. Cette semaine, je suis avec Vincent.
Salut!
Qui a une barge de nouvelles à nous entretenir. On va commencer justement par la barge de nouvelles. On va faire un court aperçu. La GRC peine à combattre le cybercrime, hausse rapide des piratages des données de santé aux États-Unis, Atotech, victime d'un rançon logiciel et finalement un ingénieur pris à expliquer comment hacker un Wi-Fi d'hôtel, ce qui n'est pas super brillant. Chemise plug, 10 octobre, ISACA, la gouvernance et la gestion des TIO au gouvernement du Québec. Le 16 octobre, encore ISACA Québec, les défis et les opportunités de l'intelligence artificielle. 25 octobre, Québec SEC, une présentation sur le pied de jeux vidéo. Le 2 et 3 novembre, le Hackfest, qu'il faut absolument aller. Le 2 et 3 janvier, le FIC à Lille, dans lequel je prends la même manche de la poutine avec Damien. Et le 8 avril, le Secure, nouvel événement de sécurité de Québec numérique, qui se veut un endroit fédérateur pour les éléments de sécurité à Québec. Donc, on commence avec la première nouvelle, Vincent. La GRC a un petit peu de difficulté à combattre le cybercrime.
Oui, écoutez, il y a un petit combat de coq entre la commission à vie privée et puis la GRC. Il semble que depuis 2016, les chiffres sont assez éloquents. C'est un document obtenu en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels, en fait plutôt la loi à l'accès à l'information obtenue par CBC. Un beau gros document de 274 pages. Il relate qu'en 2016, il y a eu près de 24 000 cas de cybercriminalité qui ont été signalés à la police canadienne. Ça, c'est ceux qui ont été signalés. Il y en a sûrement plus que ça. Toutefois, les chiffres relatés, ça correspond à 58 % de plus qu'en 2014. Et puis, bien entendu, c'est le cryptage des données qui est en cause. C'est le cryptage des données qui se retrouve en ligne, qui est l'un des obstacles les plus importants que rencontre quotidiennement la GRC. Le prédécesseur à l'ancien commissaire, justement, à la GRC, Bob Paulson, qui était Brenda Lockey, avait d'ailleurs fait pression sur le gouvernement pendant son mandat pour obtenir plus de pouvoir. Donc, la GRC essaye d'obtenir plus de pouvoir pour pouvoir, en fait, légiférer en la matière. Et puis, c'est pour éviter certains obstacles au niveau de la protection de la vie privée, en fait, pendant les enquêtes policières. Il souhaitait pouvoir contourner à ce moment-là le cryptage puis avoir accès sans mandat aux renseignements des abonnés Internet dans les cas de menaces à la sécurité nationale. Là, on parle ici de menaces présumées. Donc, s'ils ne veulent pas de mandat, c'est pour justement démontrer s'il y avait raison de présumer que l'internaute en question portait atteinte à la sécurité nationale. Mais bon, on sait ici que c'est un petit combat que se livrent depuis plusieurs années les autorités policières. On se souviendra du cas de la tuerie qu'il y a eu dans un bureau San Fernandino où la police avait exigé à Apple les codes pour pouvoir débarrer un téléphone à Apple. Et puis, ça avait fait toute une prise de bec.
Ben, c'est sûr que d'un point de vue américain, c'est pas exactement la même chose. Mais je sais que ce qu'on constate, c'est que la police veut de plus en plus ne pas se soumettre au processus justement d'obtention d'un mandat légitime et vérifié par la justice avant d'accéder à l'information. Puis je dirais que comme citoyen, c'est un peu inconfortable.
Oui, tu as tout à fait raison. Je ne sais pas c'est quoi les arguments évoqués par la GRC, mais bon, mon opinion à moi, c'est que je suis un petit peu mitigé. Advenant le cas où il y avait une menace potentielle, c'est sûr que le temps peut jouer en faveur des policiers, mais bon, on n'embarquera pas dans ce débat-là.
C'est parce que notre système est fait qu'il y a des contrôles, il y a une balance de pouvoir qui permet justement qu'il n'y ait jamais d'exagération entre l'utilisation et une protection adéquate de la vie privée des citoyens. Donc, de défaire cette balance-là sans donner un contrôle compensatoire, parce que les juges qui donnent les mandats, c'est justement pour éviter l'exagération que la police peut faire dans toute la volonté qu'elle veut d'arrêter un crime. Donc, on a quand même comme citoyen un minimum de protection.
Oui, effectivement. Le fédéral, là on parle du gouvernement, veut continuer à protéger les données confidentielles, ça va. Ça veut dire que la GRC, présentement, semble pas au bout de ses peines.
Mais c'est parce que c'est comme un Pour ma part, je trouve que c'est un faux débat parce qu'ils veulent tout contourner les éléments de chiffrement. Puis souvent, c'est venu, comme tu disais, aux États-Unis, ça a fait la manchette, tout ça. Mais l'obtention d'un mandat légitime oblige la personne à déverrouiller son téléphone de toute façon. Donc, s'il passe par le chemin, je ne sais pas pourquoi, ou en tout cas, il n'explique pas bien ou il ne rentre pas bien dans l'espace public la raison pourquoi ils veulent utiliser ce raccourci et dans quelle mesure ce raccourci-là va être vraiment utile au lieu de juste dire oui, sécurité nationale, on a peur puis on veut ça.
Ouais, je comprends ton point. Autrement dit, eux autres, c'est tout simplement une question de délai pour faire avancer l'enquête, là, pour le contournement des lois, parce que s'ils appliquent comme du monde, puis ils démontrent avec une preuve hors de tout doute raisonnable, ils vont l'avoir le mandat de toute façon, puis ils vont l'avoir l'information, puis ils vont pouvoir l'étudier.
Ouais, c'est ça. Donc, t'as terminé la nouvelle?
Non, c'est pas terminé. Je voulais juste mentionner que plus tôt cette année, il y a le Comité de la sécurité publique puis nationale de la Chambre des communes qui a publié un rapport dans lequel ils recommandent que justement aucun changement ne soit porté aux politiques puis aux lois en vigueur, justement, pour que ça demeure inchangé, pour pas justement donner plus de pouvoir à la GRC qu'elle n'en a déjà. Il y a le porte-parole, justement, Scott Bartley, rappelle que le gouvernement s'est engagé à verser 116 millions sur 5 ans, et ensuite de ça, 23 millions par année par la suite pour créer justement une unité nationale de coordination en matière de cybercriminalité. Écoutez, je peux pas commenter le programme, je l'ai pas vu, on verra ce que ça va donner, mais je trouve que c'est beaucoup de sous présentement là pour une unité nationale de coordination, mais tant mieux, ça peut pas être mauvais pour nous, chers Canadiens, qui manquons de ressources en la matière.
Ah, c'est sûr, on peut pas être contre ce genre de choses-là, mais encore là, c'est que du point de vue du financement, mais il faut connaître les raisons pourquoi ils ont besoin. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent un raccourci? Est-ce que parce qu'ils sont mal outillés aussi? C'est comme si ce programme-là vient peut-être les outiller davantage, ça va peut-être réduire leur prétention à vouloir avoir des accélérateurs ou des passe-droits à notre protection constitutionnelle.
Alors, en terminant, il y a les défenseurs de la vie privée mettent dans un coin un peu la GRC et puis leur requête. Donc, la GRC, en plus de devoir faire leurs enquêtes, être pris avec des délais. Là, c'est une antithèse que je fais, c'est pas une opinion. Alors, il y a toujours au moins les défenseurs de la vie privée qui tiennent dans un coin, justement, pour les maintenir dans le ring, leur encadrement.
Ouais, ben c'est une bonne chose, mais en même temps, j'ai peur qu'on radicalise le débat puis que dans le fond, on perde les arguments cohérents qui sont intéressants pour tout le monde. Dans ce cas-ci, si la GRC expliquait pourquoi elle veut utiliser ces affaires-là, puis les raisons, puis toutes les mesures de contrôle compensatoires qui vont avec cette utilisation-là, je suis sûr qu'on serait capable d'arriver à quelque chose qui serait intéressant sans avoir à effrayer les gens qui protègent les défenseurs de la vie privée.
Oui, puis ça amènerait une coordination puis une meilleure collaboration entre les défenseurs et justement les pouvoirs que la GRC veut utiliser ou veut rehausser là, dans certaines circonstances.
Oui, il faut un juste équilibre entre tout ça. Donc, passons à la nouvelle suivante. Hausse rapide des problèmes de sécurité en santé aux États-Unis.
Oui, des petits chiffres alarmants au départ. En 2010-2017, 176 millions de dossiers santé ont été volés au total aux États-Unis, selon les déclarations du gouvernement américain des divers acteurs du système de santé. Présentement, c'est des piratages, des fuites de données personnelles santé aux États-Unis qui est en train d'exploser, principalement chez les sociétés équivalentes à notre assurance maladie. C'est une étude qui a été publiée mardi dernier. Le nombre de dossiers piratés a fait un bond en 2015, passant en cumulé de 3,3 millions en 2014 à 115 millions l'année suivante, ce qui est assez épouvantable.
C'est assez énorme, constant, que on parle de la population. Ça s'approche de la moitié de la population américaine.
Oui, c'est en plein tiers, justement, de la population. C'est assez alarmant et effrayant. Des belles données pour des compagnies d'assurance qui vendent des produits d'assurance individuelle ou collectif. Alors, pour atteindre un pic à 132 millions l'année dernière, cumulé depuis 2010, ce qui est spectaculaire. Les autres catégories de violations, c'est la perte, le vol de fichiers papier sur film ou un ordinateur, par exemple. Les serveurs et les systèmes de messagerie sont les maillons faibles. En fait, c'est le principal vecteur d'attaque dans ce dossier-là qu'ils ont décelé. En nombre d'incidents, bon, les médecins, les cabinets, les professionnels en santé sont en tête. La grande majorité des violations de confidentialité en nombre de dossiers viennent également, oups, des assureurs. C'est là que sont concentrés le plus de données. Encore là, un beau gros vecteur d'attaque.
C'est sûr que quand le trésor est situé à un endroit comme ça, autant concentré, comme tu dis, ça va attirer l'œil du pirate.
Oui, effectivement. Plus de la moitié des Américains sont assurés par leur santé dans le secteur privé. L'État fédéral n'offre pas une couverture pour certaines catégories, notamment les plus de 65 ans. Bon. L'électronisation, wow, fantastique traduction ici. On va dire la numérisation des dossiers santé, priorité du secteur aux États-Unis, a le potentiel d'améliorer les soins cliniques. Bon, écrivent les auteurs de l'étude, mais elle peut potentiellement nuire d'un coup à un grand nombre de patients si la sécurité n'est pas appliquée ni améliorée.
Ouais, puis c'est pas un secteur dans lequel ils font d'énormes efforts pour rehausser la sécurité. C'est toujours au plus fort la poche. Fait qu'ils sont tout pressés de faire de l'argent, mais ils sont pas pressés de sécuriser l'information qu'ils leur donnent par la capacité de faire de l'argent.
Ouais, effectivement. Donc, un gros problème de faille. En fait, un grand défi qui attend les Américains dans le domaine de la santé.
Ouais, puis à ce compte-là, il faudrait peut-être une loi aussi brutale que la RGPD, peut-être pour les aider à se conscientiser à ce genre de problème-là, puis réduire les mauvaises décisions de ces compagnies d'assurance-là, entre autres.
Là. Yep, à suivre.
Oui, définitivement. On va maintenant revenir au Québec avec Arthotech, qui a été victime d'une attaque, mais qui s'est relevé, ma foi, assez rapidement.
Ouais, c'est plutôt, en fait, Arthopex. Mais bon, c'est pas grave. 4 des 5 usines québécoises du fabricant de meubles, c'est un des plus gros joueurs sur le marché de mobilier de bureau, a été temporairement paralysé par une attaque qui a pris les données en otage. Le président de l'entreprise, Tavia Granby, il a confirmé que le virus a infiltré les systèmes d'une usine située à Granby, Sherbrooke et Laval, le 19 septembre dernier, donc une semaine. Et puis, d'après le PDG, M. Pelletier, la production a été affectée pendant une période de 2 jours, 48 heures. Mais seules quelques commandes ont souffert du ralentissement des activités. Tant mieux. Comme il disait, il y avait déjà un plan de contingence préparé en cas d'attaque. Moi, j'étais impressionné. Fait qu'il a réussi à repartir les affaires, qui compte à peu près 740 employés, qui figurent au palmarès des 50 entreprises les mieux gérées au Canada depuis 11 ans. Bravo, chère compagnie.
Oui, mais c'est ça, effectivement, la vitesse de retour, elle est exceptionnelle. Par contre, le fait que ça se soit propagé autant que ça dans l'ensemble des systèmes est peut-être une question qui a peut-être un peu d'énergie à mettre en amont pour limiter la portée à l'avenir.
Oui, probablement l'architecture qui interconnecte ces usines devrait être revue pour minimiser en fait les impacts puis pouvoir contenir le problème plus rapidement.
Une petite segmentation, je pense, ça n'aurait pas fait de tort pour limiter la portée des dommages, mais en même temps, je lève mon chapeau à quelle vitesse il a réussi à relever, c'est exceptionnel.
Il y a une demande de rançon pour faire décrypter les données. La demande de rançon, viens si tu veux faire décrypter tes données. Ils ont déployé leur plan, comme l'a décrit M. Pelletier. La tentative de fraude a été rapidement dénoncée auprès des autorités policières et du Centre antifraude au Canada. Puis il y a une vaste opération de nettoyage de l'ensemble des serveurs et de remise en fonction des données sauvegardées, FIU, qui a été nécessaire avant que les activités puissent reprendre. Comme il dit, quand ça arrive, il faut s'assurer que tout le système n'est pas contaminé. Bien ici, il y a 4 usines sur 5, ça a été pas mal contaminé. Probablement qu'il y a des leçons apprises puis des recommandations qui vont sortir du post-mortem de cet événement-là, on espère.
Assurément. Puis ce qui va lui faire mal là-dedans, c'est les coûts qu'il a dû mettre pour le retour arrière puis un peu le ralentissement des commandes va lui avoir coûté quand même quelques millions dans l'ensemble de l'aventure. Enfin, je pense que ça va le motiver à justement dans le lesson learned, les leçons apprises d'améliorer toute son infrastructure, peut-être justement la segmentation qu'on va parler plus tôt.
Monsieur explique qu'une semaine après l'incident, Artopex fonctionnait à 95% de ses capacités, ce qui est très bien. L'entreprise soutient ne pas s'être fait voler d'informations, donc pas d'exfiltration, tant mieux. Et puis, des renseignements confidentiels sur ses employés et ses clients auraient pu tomber en de mauvaises mains, mais la compagnie disait être certaine que rien n'a été dérobé. Alors, il s'agit de la toute première expérience du groupe pour ce petit fleuron québécois. Alors,
C'est pour une compagnie de type industriel ou manufacturière, c'est la capacité de relève, elle est tout à fait fascinante et ça, je suis franchement très impressionné. Mais encore là, on est toujours dans les mêmes problèmes. Les travaux en amont qui auraient limité, disons, la quantité de dommages n'ont pas été faits peut-être à la hauteur de ce qu'il aurait dû faire. Mais ultimement, je trouve ça bien qu'on en parle publiquement puis qu'on adresse la situation de cette façon-là, justement, pour un peu expliquer quoi. Puis je trouve ça courageux de sa part d'en parler de la sorte, parce que j'espère que ça va faire propager dans l'ensemble du milieu manufacturier ce genre de préoccupation-là, puis c'est les effets que ça peut avoir sur les entreprises, au lieu qu'on se ferme les yeux puis qu'on espère que ça arrive jamais.
Écoute, c'est exactement ce que j'allais dire. Fantastique d'avoir divulgué l'information. Courageux de sa part, exactement comme tu le dis. Écoutez, je vais arrêter l'article ici. Vous lirez le reste de l'article. Là. On relate encore les données de la GRC sur le nombre d'attaques, là, des petites données statistiques. Là, c'est plate à dialoguer, mais je vais vous inviter à le lire. Là. Mais effectivement, selon ce qui est arrivé à Artopex, encore là, c'est le plus grand vecteur d'attaque dans l'univers connu, on va dire. C'est quelqu'un qui s'est fait prendre à ouvrir un lien sur un courriel malicieux. La personne ne s'est pas méfiée. Et puis, voilà ce que ça a donné. Mais chapeau à l'équipe. Ils avaient des backups. Ils ont récupéré. Ils se sont pas énervés. Et puis, voilà ce qui arrive. Ils sont relevés, puis ça fonctionne.
Très belle gestion de crise, puis très belle gestion d'incidents associés à ça. Ça fait que c'est vraiment chapeau. Passons à la nouvelle suivante. Un ingénieur a un peu trop parlé sur son blog, puis il s'est fait taper sur les doigts.
Oui. Un ingénieur chinois qui s'est mis le pied dans la bouche puis qui s'est tiré sur le gros orteil. Monsieur, je ne veux pas scraper son nom, mais on va dire Zhang Datua. Un ingénieur chinois qui travaille chez Tencent. Monsieur est allé à une conférence et puis durant son séjour à l'hôtel, parce que c'était à l'extérieur de son lieu de résidence, ce jeune ingénieur a un petit peu trafiqué le système Wi-Fi de l'hôtel, a trouvé des failles de sécurité, a réussi à l'exploiter. Alors, au lieu justement de faire le gentil white hat, je vais appeler ça mon gentil herbivore, et puis de dénoncer justement aux autorités compétentes l'affaire qu'il a trouvée et puis possiblement les mesures correctives à appliquer. Il s'est dit, tiens, avant de faire ça, je vais publier sur mon blog la façon de faire. Et puis, c'est là que les autorités sont rentrées en scène et puis qu'ils l'ont arrêté justement pour un méfait de, comment qu'ils disent ici, un méfait qui aurait coûté à peu près, c'est pas énorme, là, c'est 3 660 $. Mais bon, le jeune homme, je sais pas s'il pensait bien faire, je sais pas à quoi il pensait, ben honnêtement.
Ouais, moi aussi, je suis pas sûr qu'il pensait ben fort avant de faire quoi que ce soit. Là.
Alors, voilà, ce qui s'est passé au travers de ça, c'est quand il a su justement que sur son blog, ça avait été propagé, probablement exploité, et puis qui a été recherché par les autorités. C'est drôle, ces sites web ont disparu du jour au lendemain, mais malheureusement, l'information a été dérobée puis publiée sur d'autres vecteurs, d'autres sites web, d'autres blogs, et puis ça se promène encore. On va juste espérer que...
C'est le problème des internets, là, une fois que l'information est partie, on en perd le contrôle.
On va juste espérer que l'hôtel a récupéré l'information et puis qu'ils ont appliqué les correctifs nécessaires justement pour pas que la solution publiée fonctionne.
Au moins ça, mais en même temps, c'est vraiment pas brillant de la part du gars. S'il avait vu le problème, il aurait dû avertir l'hôtel au lieu de publier ça pour sa propre gloire. Là. Tu vois que sa gloire l'a mené en prison. C'est pas un super plan, là, mais en même temps, Faut que les autorités agissent parce qu'on peut pas accepter ça, ce genre de choses-là. C'est, dans le monde réel, on n'accepterait pas ce genre de choses-là. Que t'ailles dérober un magasin, puis tu dis, ah non, mais là, je l'ai expliqué, puis je t'ai expliqué sur le web comment dérober ton magasin. C'est pas un super plan, là.
En fait, possiblement que pendant son séjour, s'il avait dénoncé aux autorités de l'hôtel le problème puis comment le régler, il aurait peut-être pu avoir accès au minibar totalement gratuitement, là.
Il y aurait eu probablement d'autres avantages intéressants à ce moment-là s'il avait agi de façon responsable, ce qu'il n'a de toute façon pas fait, là.
Non, effectivement.
Donc, ça complète les nouvelles pour cette semaine. Donc, une parole sage à nous annoncer.
Alors, tu parles de moi, ça?
C'est toi qui es sage.
Ben oui, cliquez pas sur les liens des courriels que, un, vous connaissez pas, puis deux, que vous attendez pas.
Oui, ça, mais ça, c'est. Oui, c'est vieux comme la monde, ce truc-là.
Oui, effectivement.
Donc, sur ce, oui.
Ah, puis dernière chose, s'il y a des compagnies qui nous écoutent, faites donc des backups.
Oui, puis testez votre mesure de relève, puis assurez-vous que ça relève correctement, que vous n'avez pas des mauvaises surprises par des tapes qui ne fonctionnent pas ou des mesures de relève qui, finalement, ne fonctionnent pas telles qu'attendues.
Oui, puis assurez-vous que si votre site principal est infecté, et que vous avez un hot site à l'autre bout, à 200-300 km, ben que le tuyau soit pas ouvert, justement, pour pas infecter votre hot site. Un autre petit problème que certaines entités pourraient rencontrer, c'est le fun d'un hot site. On se relève en une couple de secondes, si c'est pas une catastrophe qui met des vies humaines en danger, bien entendu, mais si c'est infecté dans le site principal, la probabilité que ça soit infecté l'autre bord est très grande.
Ouais, propagation. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente semaine.
Oui, moi aussi. À la prochaine.